J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Notre Père Céleste, nous voulons encore nous placer devant toi pour nous mettre à ton écoute, à l'écoute de ce que tu veux nous dire cet après-midi, et entièrement nous soumettre à ta parole et avoir cette résolution de t'obéir, d'appliquer ce que tu nous demandes encore cet après-midi. Conduis-nous, Seigneur, ouvre notre intelligence par ton esprit et accorde-nous, Seigneur, encore de la sagesse par ce que nous allons entendre. Oui, Seigneur, tout cela, nous le remettons entre tes mains, ce moment où ta parole est proclamée. Au nom de Jésus. Amen. Nous reprenons donc aujourd'hui notre courte série sur le rapport des chrétiens aux autorités, d'après l'enseignement de la Bible. Le premier tour de la présidentielle se déroule aujourd'hui et nous en connaîtrons les résultats ce soir. Que doit-on faire en attendant? Eh bien, le texte de cet après-midi nous encourage à prier. Et nous lirons ensemble dans la parole de Dieu le texte de 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 7. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Nous sommes probablement dans les années 60 après Jésus-Christ, dans la dernière partie de la vie de l'apôtre Paul. Et il semble, après avoir fait au moins un séjour en prison, qu'il soit encore libre de ses mouvements à ce moment-là et qu'il se trouve en Macédoine. Et il a laissé son collaborateur, son cher Timothée, à Éphèse, en Asie mineure, avec la mission de veiller sur ce qui est enseigné à l'Église. Parce que, en effet, dans l'Église d'Éphèse, certains se sont mis à enseigner d'autres doctrines que l'Évangile. Et Paul dit qu'ils se sont attachés à des fables. Alors Paul donne des instructions à Timothée, afin que l'Église reste sur le droit chemin de la foi en Jésus-Christ. Et parmi ces instructions, nous avons celle que nous venons de lire et qui concerne la prière. Et le message de Paul est clair. Dieu veut que l'Église prie pour tous les hommes, sans oublier les autorités. Le message central de ce texte est que Dieu veut que l'Église prie pour tous les hommes, sans oublier les autorités. C'est ce que Dieu attend de son peuple. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors regardons d'abord ce que Paul exprime au verset 1. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Dans l'ordre des instructions que Paul donne dans sa lettre, il évoque la prière en premier, avant tout. C'est dire la place primordiale de la prière dans la vie de l'Église, autant lorsque les chrétiens sont seuls devant Dieu que lorsqu'ils se réunissent. Et je dois poser d'emblée cette question en tant qu'Église de Saint-Maur. Avons-nous fait de la prière une priorité? Ou est-ce que nous sommes en train de passer à côté de notre vocation à côté de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Est-ce que nous avons fait de la prière notre priorité, que ce soit dans notre vie personnelle, parce que nous sommes seuls devant Dieu, que lorsque nous sommes réunis les uns avec les autres? Parce que pourquoi Paul commence par parler d'abord de la prière dans toutes ses instructions? Dans ce verset 1, Paul accumule les termes demande, prière, supplication, qui nous invitent à demander à Dieu, sans oublier la reconnaissance. Et si nous croyons que Dieu est à l'œuvre dans le monde où nous vivons, nous prierons pour tous les hommes, quelle que soit leur origine, leur situation sociale, leur couleur de peau, leur choix de vie, leur orientation sexuelle. Nous prierons pour tous les hommes. Dieu a créé tous les êtres humains. Aucun n'est sur terre par hasard. Prier pour tous les hommes, voilà une responsabilité qui revient au peuple de Dieu. Et si ce n'est pas l'Église qui prie Dieu pour ses contemporains, qui le fera? Si ce n'est pas l'Église qui prie pour ses contemporains, qui le fera? C'est la raison pour laquelle nous prions, pour tout ce qui se passe actuellement dans notre monde. Les sujets de prière sont communiqués semaine après semaine pour nous encourager à cela. À prier pour les frères et sœurs en Christ, à prier pour notre entourage qui ne connaît pas le Seigneur, et à prier aussi pour nos contemporains en France et dans le monde. Et nous n'excluons personne de nos prières. Il n'y a aucune catégorie qui mériterait d'être exclue de nos prières. Alors, ma question pour vous, pour qui pries-tu en ce moment? Et puisque l'apôtre Paul mentionne des prières de reconnaissance, j'ajoute cette question, pour qui remercies-tu Dieu en ce moment? Il faut l'avouer, très naturellement, nos sujets de prière peuvent tourner autour de nous, autour de nos besoins, autour de notre personne. Mais cela comporte au moins un risque évoqué par Jacques dans son épître. Et Jacques reprend sévèrement ses destinataires. Dans Jacques chapitre 4, versets 2 à 3. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce sont des paroles sévères. Il existe donc une mauvaise manière de demander à Dieu. Et en bon père qu'il est, Dieu ne nous accorde pas ce qui pourrait nourrir notre égocentrisme. Et cet après-midi, la parole de Dieu nous incite à ouvrir grand notre cœur. Prier pour tous, c'est la responsabilité de l'Église. C'est notre responsabilité en tant qu'Église de Saint-Maur. Et Paul précise que les prières de l'Église doivent aussi inclure les autorités. C'est la suite de cette exhortation à prier pour tous. Prier pour les autorités, dans la Bible en tout cas, ce n'est pas le sujet le plus développé. Mais les propos de Paul suffisent déjà à nous inciter à prier Dieu et à le remercier pour les autorités, pour les hommes et les femmes engagés dans la gestion de notre pays ou de notre localité. Un simple rappel, à cette époque, celui qui régnait sur l'Empire romain, c'était Néron. Alors si vous avez déjà entendu ce nom, sans doute que vous connaissez sa réputation. Et souvent une très mauvaise réputation concernant cet empereur, connu pour avoir notamment persécuté les chrétiens à un moment donné. Alors, bien sûr, il n'a pas fait que de mauvaises choses, et en tout cas, le début de son règne, même si je ne veux pas spécialement défendre son dossier, mais le début de son règne se déroulait plutôt bien, jusqu'au jour où tout a basculé. Et prier pour les autorités à l'époque de Paul et de Timothée, c'était entre autres prier pour cet empereur qui n'était pas chrétien, comme sans doute la plupart de ceux qui gouvernaient les provinces de l'Empire. Et Paul précise, et c'est ça qui va nous intéresser, Paul précise le but de nos prières lorsque nous intercédons pour nos autorités. Verset 2. « Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Alors si nous lisons trop vite ce verset, nous pourrions nous dire qu'il s'agit d'un but égoïste de la part des chrétiens. Que les autorités assurent aux chrétiens la tranquillité afin qu'ils puissent vivre leur foi en Dieu. Oui, ce but serait égoïste s'il était tourné vers les chrétiens qui ont besoin de pratiquer leur petite religion. Mais il n'en est rien. Ce but est en réalité tourné vers Dieu. Oui, nous prions que nos autorités nous accordent cette liberté pour nous rassembler sans être inquiétés. Et nous devons remercier Dieu que ce soit le cas en France. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour le fait que nous puissions vivre notre piété sans avoir besoin de nous cacher, sans nous sentir surveillés en permanence. Réalité que d'autres frères et sœurs vivent dans le monde, comme nous le savons. Si nous prions pour que les autorités assurent la tranquillité, c'est pour pouvoir vivre en toute piété. Et ce terme, qui est employé par l'apôtre Paul, il l'utilise plusieurs fois dans cette lettre à Timothée. La piété désigne la manière dont les chrétiens honorent Dieu dans leur vie. C'est une manière de vivre qui exprime leur attachement à Dieu. La piété, c'est un terme qui est proche de la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament. Pour donner quelques exemples, notre piété, nous la vivons lorsque nous passons du temps dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la louange, seul ou en église. Notre piété, nous la vivons lorsque notre comportement est intègre et qu'il s'écarte de tout compromis parce que nous obéissons à Dieu. Notre piété, nous la vivons lorsque nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. La piété est ce qui nous distingue de celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quant au mot « respect », il renvoie à l'attitude que nous avons en société. Comprenez une conduite qui commande le respect, comme le traduit la version du Semeur. Une conduite qui commande le respect, qui est respectable. Et cela est en lien avec le témoignage que nous donnons au quotidien en tant que chrétiens. Nous prions donc Dieu pour que les autorités assurent par leur sage décision la tranquillité, non pas pour notre confort, mais pour que Dieu soit adoré par son peuple et honoré par son témoignage. Non pas pour notre confort, mais pour que nous puissions annoncer l'évangile de Jésus-Christ à nos contemporains. Voilà pourquoi nous prions pour la tranquillité. Et un commentateur écrit « Ce qui est recherché dans ce qui est exprimé dans ce verset, ce qui est recherché, ce n'est pas simplement une vie paisible, c'est la meilleure condition possible pour l'expansion du royaume de Dieu. » Alors résolument, le but n'est pas tourné vers nous, vers les chrétiens, mais vers Dieu et vers ses intérêts. Et nous devons d'autant plus prier pour nos autorités, car leurs décisions ont un véritable impact sur notre vie en tant que citoyens, en tant que chrétiens et collectivement en tant qu'Église. Et dans cette période de pandémie que nous vivons encore, nous avons mesuré le poids des décisions de ceux qui nous gouvernent. Les restrictions qui ont été énoncées tout au long de ces 2 années ont réglementé notre mode de vie. Sortir ou ne pas sortir, porter un masque ou non, limiter le nombre de personnes dans un lieu public ou même dans un lieu privé. Et nous nous souvenons encore que certaines restrictions concernaient les lieux de culte. Se rassembler physiquement ou ne pas se rassembler. Cette expérience seule que nous avons vécue suffit pour nous convaincre qu'il est important de prier pour ceux qui nous gouvernent afin que par leurs décisions, nous continuions de bénéficier de la liberté de culte et de la liberté de conscience. Aucune loi ne devrait nous interdire d'adorer Dieu et Dieu seul. Et en France, pensons à prier pour notre président, ou notre futur président bientôt. Pour le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Pour les députés et les sénateurs qui discutent des lois. Pour les maires, les conseillers municipaux et régionaux. Toutes ces personnes ont une grande responsabilité devant les hommes et devant Dieu. Et notre responsabilité en tant qu'Église est de prier pour eux. Nous avons vu jusque-là que l'apôtre Paul exhorte à prier pour tous les hommes, sans oublier les autorités qui ont le pouvoir d'assurer un cadre de vie paisible, favorable à la piété et au témoignage rendu par les chrétiens. Et qu'est-ce qui devrait nous motiver à cela? Eh bien, la réponse commence au verset 3. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est ce qui est agréable à Dieu. Priez pour tous les hommes, priez pour les autorités, c'est ce qui est agréable à Dieu, notre Sauveur. Dieu approuve les prières, les demandes, les remerciements de son Église pour tous les hommes et pour les autorités. Dieu approuve cela. Il trouve que cela est bon. Voilà une puissante motivation pour mettre la priorité sur la prière. Dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église. Parce que tout simplement, cela plaît au Seigneur. Et je pense qu'ici, nous sommes nombreux à vouloir plaire au Seigneur. Je ne prie pas comme je veux, mais comme Dieu veut, et comme Dieu me l'enseigne dans sa parole. Et l'apôtre Paul met l'accent sur Dieu en tant que sauveur, ce qui n'est pas très courant, à vrai dire. Cette expression, souvent c'est Jésus notre Sauveur, mais ici c'est Dieu notre Sauveur. Et ce que Dieu veut, c'est sauver l'être humain pécheur. Et plusieurs textes vont dans ce sens. Et déjà, dès l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 18, verset 23, c'est Dieu qui s'exprime. « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?» déclare le Seigneur, l'Éternel. « N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ?» Psaume 81, verset 14, qui exprime plus un soupir de Dieu, « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. » Et puis dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui s'exprime et qui pousse aussi ce soupir concernant Jérusalem. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Et vous ne l'avez pas voulu. Tous ces textes que je viens de lire nous montrent l'intention constante de Dieu de vouloir le salut de l'être humain plutôt que sa perte. L'intention constante de Dieu de vouloir le salut de l'être humain plutôt que sa perte. Et pour autant, cela ne signifie pas que toute l'humanité sera sauvée. Nous voyons par exemple dans le verset que je viens de lire que la réponse de l'homme à l'amour de Dieu est décevante. Dieu appelle au salut, Dieu donne de son amour, mais certains refusent. Donc il est clair que tous ne seront pas sauvés. Et ce que Dieu désire, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité de l'Évangile, celle qui concerne Jésus-Christ. Dieu désire que tous les hommes, quelle que soit l'origine, quelle que soit la condition, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ils pourront connaître la vérité s'ils voient des chrétiens et des chrétiennes vivre leur piété d'une manière respectable. Et cela sera d'autant plus flagrant et facilité si les autorités garantissent un cadre paisible et tranquille. Et c'est pour cela que nous prions. Et si Dieu est notre sauveur, il peut l'être de quiconque fait appel à lui. Et vous voyez affiché ici la manière dont nous avons remonté l'enchaînement des idées. Dieu désire que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ils pourront la connaître s'ils voient des chrétiens et des chrétiennes vivre leur piété d'une manière respectable. Et cela sera d'autant plus facilité si les autorités garantissent un cadre paisible et tranquille. Parce que nous prions pour cela. Et enfin, puisque Dieu est notre sauveur, il peut être le sauveur de n'importe qui fait appel à lui. La pensée de Paul est logique. Et je pense que c'est convaincant. Connaître le caractère de Dieu, c'est-à-dire ce Dieu sauveur, influence, oriente notre manière de prier. Je donne un exemple. Si je pense que Dieu est un bon génie qui exauce des vœux, je vais présenter à Dieu toutes sortes de demandes en espérant qu'il puisse m'exaucer. Mais si je crois que Dieu est un Dieu qui sauve, je m'adresserai à lui en lui demandant de sauver les membres de ma famille. Je lui demanderai de sauver mes amis et toute personne que je croise sur mon chemin et qui ne le connaît pas encore. Parce que je crois que Dieu est sauveur. Donc, en connaissant le caractère de Dieu, cela m'influence dans ma manière de prier. Si les êtres humains qui sont sur cette terre peuvent être sauvés, ce n'est que par lui. Pour la simple raison qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, il faut absolument que les êtres humains connaissent ce Dieu unique pour être sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est à lui, à ce Dieu sauveur, que nous nous adressons lorsque nous prions pour tous les hommes. Et en plus, il n'y a qu'un seul médiateur, qu'une seule personne qui puisse réconcilier les hommes avec Dieu. Un seul homme qui est Dieu aussi, Jésus-Christ. Et il faut absolument que les êtres humains connaissent ce médiateur pour être sauvés. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et comment cette réconciliation a été possible? Eh bien, Paul le résume en quelques mots. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour nous. La rançon, c'est Jésus lui-même. Jésus, l'homme Dieu parfait, a payé de sa propre vie le prix pour nous libérer. Pour nous qui étions esclaves du péché et condamnés à cause de nos fautes. Mais puisque le prix a été payé, puisque justice a été faite, Dieu n'exige plus notre condamnation. Et cette rançon nous rappelle que sur la croix, Jésus a pris notre place. C'est à notre place qu'il a été cloué. Et nous devons toujours le réaffirmer, surtout à une époque où on a tendance à remettre en question cela. Malheureusement, dans beaucoup de milieux, et c'est juste une parenthèse, on affirme qu'il n'y a pas de substitution. Que Jésus n'est pas mort à notre place. Il est juste mort pour nos péchés, mais il n'est pas mort à notre place. Eh bien, nous devons dénoncer ce mensonge. Parce que c'est ce que nous croyons. Il est notre rançon. Il a payé à notre place. Et seul Dieu fait homme pouvait accomplir cela et ainsi garantir la réconciliation entre les deux parties. Et ce sacrifice historique s'est produit en temps voulu, au moment que Dieu a fixé dans le cours de notre histoire. Et Paul évoque la même idée dans la lettre aux Romains, Romains chapitre 5, verset 6. « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Il y avait un moment fixe que Dieu a déterminé, où cela s'est produit. Et tout au long de la semaine qui vient, nous aurons l'occasion de méditer sur la mort de Christ qui n'a pas fini de nous émouvoir. Le sacrifice de Jésus sur la croix est la preuve ou le témoignage dans l'histoire que Dieu veut sauver les pécheurs, bien qu'ils ne le méritent pas. Le sacrifice de Jésus sur la croix est la preuve irréfutable, le témoignage qui nous est donné que Dieu veut sauver les pécheurs, bien qu'ils ne le méritent pas. C'est ce que Dieu fait dans sa grâce. Et nous avons tellement besoin de cette grâce. Sans cela, nous ne serons pas sauvés. C'est cette bonne nouvelle que Paul continue de prêcher de la part de Dieu, en particulier aux non-juifs, comme nous le voyons au verset 7. Paul insiste sur le fait qu'il ne ment pas, qu'il dit la vérité, car sans doute que certains parmi les faux docteurs qui étaient à Éphèse voulaient le discréditer. Mais Paul, et il le redit ici, est le véritable enseignant envoyé par Dieu. Et son enseignement que nous avons encore sous les yeux est digne de confiance parce que nous savons qu'il vient de Dieu. Mes amis, considérons encore une fois le Dieu que nous adorons cet après-midi. Ce Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés, qu'ils connaissent la vérité à propos de leur situation en tant que pécheurs séparés de Dieu, et la vérité à propos de la solution qui se trouve en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Nous ne devons pas oublier ce caractère de Dieu lorsque nous prions Dieu pour les autres, le Dieu sauveur. Nous nous adressons au Dieu sauveur et il n'y en a pas d'autre. Et ce qui doit nous rassurer et nous motiver en même temps, c'est de savoir que lorsque nous prions pour tous les hommes et pour les autorités, cela est bon et agréable devant Dieu. Lorsque nous faisons cela, cela est bon et agréable devant Dieu. Nous pouvons faire beaucoup de choses en tant qu'Église et en tant que chrétien dans cette société, mais ne passons pas à côté de ce qui est écrit dans notre texte. Nos prières pour les hommes et les femmes de notre temps comptent. Sur terre, il n'y a que l'Église qui puisse prier pour les âmes perdues. Car il n'y a que l'Église, en tant que peuple de Dieu, qui sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. En guise de conclusion, je vous invite à passer tout de suite à la pratique, que nous puissions nous mettre par petits groupes de 3 ou 4, nous pouvons le faire avec nos voisins immédiats, et que nous puissions intercéder pour un certain nombre de personnes, de groupes de personnes. Et vous voyez là des suggestions, en tout cas, de personnes pour qui nous pouvons prier en tant qu'Église. Et n'oublions pas cela, que lorsque nous nous adressons à Dieu, nous nous adressons au Dieu sauveur. Je vous invite tout de suite à ce que nous puissions nous mettre par petits groupes et que nous puissions intercéder.